Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le dis à nouveau, réjouissez-vous. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete, où l'Église nous invite à nous réjouir, non pas comme des mondains, non pas selon la joie telle que le monde la donne, mais la joie de notre espérance, la joie du salut, celle dont parle le psalmiste lorsqu'il dit « Rendez-moi la joie de votre salut ». Aujourd'hui, pour nous réjouir encore plus, comme c'est le 17 décembre, c'est aujourd'hui que commencent les grandes antiennes, ce qu'on appelle les grandes antiennes. Il y aura des grandes antiennes jusqu'au 23. Elles sont aussi appelées les antiennes « O », parce qu'elles commencent tous par ce cri « O »,« O sapientia »,« O Adonai », »,« O radix Jesse ». Il y en a un certain nombre, et il se trouve que nous pourrions faire un sermon très long pour chacune d'entre elles. Mais nous avons décidé, avec l'aide du Saint-Esprit, que aujourd'hui nous balayerons rapidement ces sept antiennes, de telle sorte que vous puissiez, mes très chers frères, vous les laïcs surtout, parce que les religieux disent l'office, bien sûr, donc tous les jours ils voient l'office, ils voient les antiennes, etc. Mais pour les laïcs qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de voir ça ou d'entendre ça, il est bon, au moins une fois par an, de rappeler un petit peu et de dire un mot sur ces grandes antiennes. Alors, nous suivrons simplement, nous n'aurons pas de plan bien particulier, nous suivrons simplement les antiennes depuis celle du 17 jusqu'au 23 décembre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
On peut dire que ces antiennes, ces sept antiennes, contiennent toute la doctrine de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour ceux qui savent voir, c'est-à-dire pour les chrétiens et spécialement pour les clercs qui doivent exposer la doctrine, donc ils doivent quand même mieux la connaître que les autres afin de pouvoir l'exposer, il se trouve que ces antiennes sont une mine d'or, si j'ose dire, mine d'or divin, qui tient sa nature divine, justement, sa nature de doctrine divine, du fait que ces antiennes sont ou bien directement tirées de la parole de Dieu, ou bien elles sont formées de divers versets, passages de l'Écriture sainte, qui les composent, donc, de telle sorte qu'elles soient comme des résumés de tout ce qu'il faut croire, et je dirais, dans le cas de l'Avent, de tout ce qu'il faut espérer, mais nous sommes déjà dans l'ère de la grâce, le Messie est déjà venu. Donc, nous devons connaître ce que nos pères dans la foi ont espéré et ce que nous-mêmes, nous devons encore espérer dans le cadre de la liturgie pour que nous puissions recevoir toutes les grâces de la fête de la Nativité de notre Seigneur et tout au long de notre vie, recevoir la grâce du Sauveur. Alors, voyons la première antienne, celle du 17 décembre, aujourd'hui donc. « O sapientia, qui exore altissimo prodigisti », etc. « O sagesse, qui sortit de la bouche du Très-Haut, atteignez d'une extrémité du monde à l'autre et disposez toutes choses avec force et douceur. Venez pour nous enseigner les voies de la prudence. » Vous percevez, mes très chers frères, que chaque mot de cette antienne est digne d'un commentaire très approfondi. Mais nous en avons sept à voir, alors nous irons très rapidement, hélas. Ô sagesse, tout d'abord, ces sept antiennes sont sept invocations d'un nom ou d'un attribut ou d'une caractéristique de notre Seigneur Jésus-Christ. La première antienne nous fait donc dire « Ô sagesse ». Nous nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ en tant que la sagesse. Vous savez que l'Écriture nous enseigne beaucoup sur la sagesse divine. La sagesse, notre Seigneur, est la sagesse incréée, sortie de la bouche du Très-Haut, nous dit l'Écriture sainte. Il est le Verbe du Père, il est la sagesse du Père, il est la connaissance que le Père a de lui-même, et se connaissant tout entier lui-même, il engendre son Fils, qui est la parole de sa bouche, son Fils, son vrai Fils, la sagesse éternelle, le verbe éternel, par lequel tout a été fait. Le premier mot du premier livre de l'Écriture sainte, en hébreu, c'est au commencement, c'est un seul mot, au commencement, Bereshit, au commencement, et les exégètes, et même les exégètes juifs actuels, diront, c'est mystiquement parlant, ce premier mot, quand on le décompose, enfin, on ne va pas faire de l'hébreu aujourd'hui, mais quand on le décompose, on peut le traduire par la sagesse, avec sagesse, dans la sagesse, littéralement dans la tête, au commencement donc, en tête, mais il se trouve que cette tête, ce n'est autre que la bouche même de Dieu. C'est le Verbe divin par lequel tout a été fait. Dieu a fait toute chose avec sagesse, avec sa sagesse. La sagesse de Dieu dans l'Écriture sainte, et on le voit spécialement dans le livre des Proverbes, qui est un livre divin et absolument magnifique, comme tous les autres livres de l'Écriture sainte, bien sûr, mais nous le voyons dans le livre des Proverbes, cette sagesse parle, cette sagesse se manifeste, cette sagesse prêche. Cette sagesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, manifesté par sa parole, en tant qu'il est la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, incarné dans le Nouveau Testament. Il est la sagesse du Père, par laquelle tout a été fait. Il est le commencement de ses œuvres, puisqu'il est Dieu créant, créateur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé toutes choses, comme c'est écrit au commencement. Au commencement, donc, dans le Fils, Dieu créa le ciel et la terre, etc., etc., et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Voyez-vous, mes très chers frères, notre Seigneur est bien la sagesse de Dieu, et si nous devons nous adresser à lui en premier, une première fois, nous devons l'adorer en tant que Dieu, de vrai Dieu, lumière de lumière, engendré, non créé, la sagesse éternelle de Dieu, qui procède de Dieu, et qui est engendrée par Dieu, sachant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et le Verbe est engendré de toute éternité par son Père. Tout a été fait par la sagesse de Dieu, par notre Seigneur Jésus. Tout subsiste dans la sagesse de Dieu et par la sagesse de Dieu, et elle est la fin de toute chose. Si la création, si la créature se considère par impossible, indépendamment de la sagesse de Dieu par laquelle elle a été faite et pour laquelle elle a été faite, la création n'est qu'un néant et un néant arrogant, c'est-à-dire un double néant, et mieux aurait valu encore pour elle de n'avoir jamais existé. Sans la sagesse de Dieu, sans le Verbe éternel de Dieu, la création est un néant arrogant. Allons un peu plus loin. Ô sapientia, ô sagesse qui, sortie de la bouche du Très-Haut, atteignait d'une extrémité du monde à l'autre et disposait toutes choses avec force et douceur. Il y aurait bien des choses à dire sur cette attingens affinée ou scuat finem, mais disons simplement que cela décrit la sagesse, comme le disent les commentateurs, je suis un commentateur bien sûr, les commentateurs nous disent c'est la sagesse de Dieu qui non seulement a créé toute chose, qui donne le mouvement à toute chose, comme le Dieu d'Aristote, et puis ensuite qui est totalement indifférent à la création. Non, c'est la sagesse de Dieu qui meut toute chose, par laquelle nous avons la vie, le mouvement et l'être, qui dispose et atteint d'une extrémité à une autre, fortiter suaviter quae, et qui, d'une façon forte et douce, dispose toute chose, disponens omnia. Cette providence divine dont il est question ici, bien entendu, ce n'est pas la providence générale du Créateur qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, qui nourrit son fils dans le désert, ses fils dans le désert, et qui donne aussi aux petits du corbeau leur pitance. Non, ça c'est très beau, c'est très bien, mais ici c'est beaucoup plus. Nous parlons du Verbe incarné pour notre salut. Il s'agit de la providence salvifique. Il s'agit ici du dessein salvateur de Dieu. Pour ce dessein salvateur de Dieu, deux adjectifs sont utilisés, fortiter et suaviter, fort et doux. Cela nous renvoie bien sûr à l'énigme de Samson que Samson a proposé aux Philistins. Que le fort et du fort est sorti le doux, etc., de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il y a là un grand mystère, un très grand mystère que nous devons adorer, à défaut peut-être de le comprendre entièrement. Le Verbe éternel de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui que nous attendons, dont nous attendons la naissance Et cela fait déjà 3000 ans que nous attendons sa naissance, puisque nous sommes au troisième dimanche après de l'Avent. Donc, nous l'attendons depuis si longtemps. Ce Rédempteur se caractérise par sa force, et c'est la souveraineté divine, le conseil invincible de sa volonté, c'est le mystère de la prescience. Dieu sait tout ce qui va arriver, et non seulement il sait tout ce qu'il va arriver, mais il préordonne tout ce qu'il va arriver. Il y a là quelque chose d'infiniment adorable et de très terrifiant. C'est le mystère de la prédestination à la vie éternelle ou à la perdition éternelle. Il y a là, ici, quelque chose de terrible. C'est la force de Dieu. Lorsque nous verrons le petit enfant couché, emmailloté et couché dans la crèche, avec à côté de lui la mère de Dieu, la divine mère de Dieu, si j'ose dire, en union avec son fils, et puis Saint Joseph, le plus grand, le plus célèbre des patriarches, eh bien, mes très chers frères, lorsque nous verrons ce petit enfant, n'ayons pas d'autre sentiment que ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui connaissent que le petit enfant faible et fragile que nous voyons dans la crèche est le Dieu, la sagesse éternelle, qui dispose toutes choses avec force. Souvenons-nous de la force infinie de ce Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui fait tout. Souvenons-nous que ce petit enfant, couché dans la crèche, à la merci des hommes, etc., des éléments, du froid, eh bien, est celui qui dispose tout, infailliblement et souverainement, librement, selon le conseil invincible de sa volonté. Tout ce que le Christ veut se réalise. Tout ce qu'il ne veut pas ne se réalise. Rien de ce qu'il ne veut pas ne se réalise. Nous le verrons dans un instant. Voyez-vous, mes très chers, souvenons-nous qu'il est fort. Il est fort et en même temps, suaviter, il est doux. Doux, non pas de faiblesse, bien sûr, parce qu'il ne peut pas être à la fois faible et fort. Il est doux, car par cette douceur divine, incompréhensible, est indiquée, nous disent les commentateurs, la capacité de la créature à participer à salut au dessein de Dieu sur elle, le dessein salvateur de Dieu sur elle. C'est cette capacité de la créature, toutes les créatures ne l'ont pas, elles l'ont toutes en puissance, mais si nous ne l'avions qu'en puissance, nous serions tous damnés. Cette capacité de la créature à coopérer avec Dieu est rendue effective par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ seul, qui ôte, quoi donc, l'obstacle, la mauvaise volonté. La mauvaise volonté, c'est ce qui caractérise tout homme venant dans ce monde, depuis la chute, bien sûr, et cette mauvaise volonté, cet obstacle, cet amour de soi désordonné, c'est très doucement, c'est avec une force invincible et une très grande douceur que notre Seigneur le retire, cet obstacle. Et ensuite nous disons « Veniat docenum nos viam prudentiae ». Venez pour nous enseigner les voies ou la voie de la prudence. La prudence. Et dans le missel de Paris, il était rajouté « La voie de la prudence et de la sagesse ». La sagesse nous enseigne la sagesse. La prudence, c'est la sagesse appliquée. Le Verbe, voyez-vous, mes très chers frères, le Verbe nous enseigne la voie de la sagesse. Et quelle est cette voie de la sagesse et de la prudence? Saint Paul nous le dit, c'est la voie de la folie de Dieu, notre Sauveur. C'est la voie de la folie de la croix. La folie de la croix, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Selon la sagesse des hommes, Dieu aurait dû agir de telle manière, et sous un certain rapport, il le fait, mais les hommes ne le voient pas. Tout ce que les hommes voient, c'est la folie de Dieu qui sauve ceux qui doivent être sauvés par le scandale de la croix, folie pour les gentils, scandale pour les juifs. Scandale jusqu'à nos jours, et folie de plus en plus pour les gentils, puisque, apostasiant de plus en plus, la croix leur devient quelque chose d'insupportable qu'ils essayent de interpréter différemment. Veni ad docenum nos viam prudentiae. Venez pour nous enseigner la voie de la prudence. Le Verbe rédempteur et le Verbe réparateur, en nous enseignant la voie de la prudence, c'est-à-dire la voie de la croix, accomplit une œuvre, dit l'Écriture, dit la liturgie plus précisément, une œuvre plus admirable que celle de la création. C'est une chose admirable pour le Verbe de Dieu que d'avoir tout créé, selon la volonté de son Père, avec la coopération du Saint-Esprit, et c'en est une chose encore plus admirable que de cette création corrompue, déchue, abominable, soumise à la vanité. Eh bien, le Christ est choisi certains pour être la nouvelle création, la nouvelle créature, les nouvelles créatures en lui, les prémices de la nouvelle création. Voyez-vous, mes très chers frères, dans ce verbe, dans cette sagesse, il y a quelque chose d'admirable, car cette sagesse est admirable en créant, et elle est encore plus admirable en créant à nouveau. Allons plus loin. Deuxième antienne, 18. 18 décembre. Ô Adonai, ô Adonai, chef de la maison d'Israël, qui est apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, et qui lui avait donné la loi sur le Sinaï, venez pour nous racheter par la puissance de votre bras. Là encore, que de passages de l'Écriture condensés, nous pourrions en dire bien des choses. Ô Adonai, nous parlons hébreu. Nous avons adoré la sagesse éternelle en parlant le verbe éternel en l'appelant ô sagesse. Et maintenant, nous parlons hébreu parce qu'elle s'est rapprochée de nous. Et que c'est par le peuple hébreu que notre Seigneur s'est manifesté de façon salvifique aux hommes. Ô Adonai, ô mon Seigneur. Adonai signifie littéralement mon Seigneur, au sens le plus absolu du terme, le Seigneur Dieu. Dieu est le Seigneur et Dux Domus Israël, le chef de la maison d'Israël. Pourquoi ? Parce que s'il est le Dieu Sauveur, s'il est le Dieu qui s'est rapproché de sa création, de sa créature humaine pour la sauver, il ne s'est pas rapproché, comme disent les mécréants, dans chaque peuple, selon un visage particulier. Il est Bouddha chez les bouddhistes, chez les jaunes, il est Brahma chez les hindous, il est Cernunnos chez les celtes, Odin chez... Non, il est le Dieu d'Israël. Tous les autres dieux sont des démons. C'est l'Écriture qui nous le dit. Tous les dieux des gentils sont des démons, sauf le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Il est le Dieu de la maison d'Israël. Il est le chef de la maison d'Israël. Les commentateurs nous disent que la maison d'Israël ici, c'est comme quand on dit la maison d'un roi, la maisonnée du roi. C'est-à-dire que c'est la seule maison, c'est le seul peuple auquel il faut appartenir pour être sauvé. Alors vous allez dire, oui, mais depuis, notre Seigneur est le chef de toutes les nations, etc. D'une certaine manière, il l'est parce qu'il a voulu les racheter. Et d'un autre côté, s'il l'est, c'est parce qu'elles font partie de la maison d'Israël. Par la dignité israélitique dont nous parle la liturgie, c'est par la dignité israélitique que les gentils sont devenus serviteurs et enfants de Dieu. La Domus Israël, ici, la maison d'Israël, c'est la noblesse du peuple dont Dieu est le Seigneur. Il n'a pas agi ainsi pour toutes les autres nations. Alors, toutes sortes de nations prennent ce verset du psaume pour se l'attribuer à elles-mêmes, avec un peu de vérité, dans le sens où chaque nation ayant son génie propre et son rôle à jouer, Dieu agit avec elle différemment. Mais la réalité, c'est que ce verset s'applique en particulier, et si j'ose dire, avec univocité, à la maison d'Israël. Ce n'est qu'à la maison d'Israël que Dieu a fait des choses et a prodigué ses grâces de telle sorte qu'il ne l'a pas fait pour les autres nations. Tous ceux qui doivent être sauvés doivent nécessairement faire partie de l'Israël de Dieu. Il y a deux événements fondamentaux dans l'Ancien Testament pour la maison d'Israël qui sont évoqués dans cette deuxième antienne. Premièrement, l'apparition de Dieu dans la flamme du buisson ardent. Et ensuite, nous allons le voir dans un instant, le don de la loi au Sinaï. Dans la première apparition, commence le processus de délivrance de la maison d'Israël de la servitude d'Égypte. Le buisson ardent, c'est le mystère du Dieu homme. À strictement parler, le buisson, c'est la Sainte Vierge, et le feu qui se repose sur elle, c'est le Verbe qui s'incarne en elle. Mais d'une façon générale, le buisson ardent, c'est le mystère du Dieu homme, de Dieu fait homme pour nous, les hommes, et pour notre salut. Il est incorruptible, et en même temps, il est passible. Il est incorruptible en tant que prêtre qui offre le sacrifice, et il est passible en tant que victime qui s'offre à Dieu pour la rédemption des captifs. de la maison d'Israël. La vocation de Moïse, vous le savez, mes très chers frères, était de délivrer les enfants d'Israël, de les arracher à eux-mêmes, puisque les ayant délivrés de la main de Pharaon, eh bien, il a dû encore les arracher provisoirement à eux-mêmes en empêchant qu'ils retournent en Égypte par nostalgie des bonnes choses qu'il y avait en Égypte par rapport au néant qu'il y avait dans le désert. Moïse a été celui qui a délivré les enfants d'Israël, mais en même temps, seul notre Seigneur Jésus-Christ pouvait nous délivrer, accomplir, réaliser la délivrance de la concupiscence, c'est-à-dire changer notre cœur. C'est pour ça que Moïse dit à la fin de sa vie, « Jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné un cœur nouveau. » Et il prophétise qu'il y aura un prophète comme lui qui viendra, plus grand que lui, et qui accomplira toutes choses. Moïse est à la fois le législateur et il est le premier prophète. Dans la deuxième événement dont qui est mentionné ici, c'est le don de la loi au Sinaï, et in sina legem dedisti, qui avait donné la loi au Sinaï. Le don de la loi, qu'est-ce que c'est? C'est le don de ce pédagogue qui doit nous mener au Christ. Le Christ, donc le Messie, qui doit nous délivrer de la mauvaise volonté qui est la nôtre depuis la chute, et dont la loi, et que la loi met en évidence. C'est toute la doctrine de saint Paul sur le rôle de la loi. La loi est un pédagogue qui doit nous conduire vers le Christ en nous montrant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous y reviendrons. La justice se montre par la loi, nous dit l'Écriture. La justice de Dieu se manifeste par la loi donnée au Sinaï par Dieu à Moïse, mais elle ne s'obtient que par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bras étendu de Dieu. Rachetez-nous, venez et rachetez-nous par la puissance de votre bras. Mais in braco extento, ça signifie par votre bras, avec votre bras étendu. Or, il se trouve que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le bras de Dieu, c'est, dans l'Écriture, le Fils de Dieu. Le bras étendu, effectivement, sans ce bras étendu, Moïse est stérile, l'ancienne alliance ne produit que des esclaves, elle ne produit pas des fils. Troisième antienne, celle du 19. « O radix Jesse, quistas in signum populorum. O rejeton de Jesse, signe de ralliement des peuples, devant qui les rois garderont le silence et que tous les peuples invoqueront. Venez nous délivrer, ne tardez plus désormais. » Pourquoi radix Jesse? Parce que la sagesse éternelle, ayant élu le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, devait sortir de la racine de Jessé, c'est-à-dire de la famille de David, mais vous savez que Jessé, c'est l'ancêtre de David. Jessé, à l'époque où il vivait, n'était qu'un particulier, nous disent les commentateurs. C'était un humble particulier dont la vertu, la grandeur, mais particulière, a été éclipsée par la magnificence de la royauté de son fils, de son petit-fils, de son arrière-petit-fils, David, qui a été fait roi d'Israël par Dieu, et ensuite qui a donné lieu à la dynastie davidique, dont devait naître le Messie. Pourquoi, nous disent les commentateurs, pourquoi radix Jessé et pas radix David? Parce que notre Seigneur devait se manifester, devait venir, lui, vrai fils de David, il devait se manifester lorsque, disent les commentateurs, la famille royale de David serait retombée dans l'obscurité. Notre Seigneur s'est manifesté en tant que, il est né du sang de David, mais il s'est manifesté en tant que humble particulier, c'est-à-dire non pas comme le roi régnant des Juifs, puisque c'était Hérode, il est le roi des Juifs, mais il l'est d'une façon spirituelle et cachée, secrète. C'est à ce titre-là, c'est à cette condition-là que la rédemption pouvait s'accomplir. Son royaume n'est pas de ce monde, et s'il règne ici-bas, il règne par ses lieutenants. Il ne règne pas directement lui-même, il règne par ses lieutenants à divers degrés. C'est une autre question qui ne nous intéresse pas aujourd'hui particulièrement. Qui, aux racines de Jessé, quistas in signum populorum. Alors, dans la traduction que j'ai sous les yeux, il dit « signe du ralliement des peuples ». Oui, effectivement, c'est ce que ça signifie, mais ça signifie littéralement « qui vous présentez comme un signe au peuple », au pluriel. Pourquoi ? Les commentateurs font le lien avec le serpent de Moïse, le serpent d'airain de Moïse, que Moïse avait érigé sur son bâton, de telle sorte que tous les Hébreux qui avaient été mordus par les serpents brûlants dans le désert puissent le regarder et obtenir la guérison. Saint Paul nous dit dans ce, explicitement en référence au serpent de Moïse, il dit « Jetez les yeux sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, etc. » et qui dit « Il n'a pas choisi une vie facile, etc. » et il a voulu mourir sur le bois de la croix. « Jetons les yeux sur le serpent d'airain de Moïse, voyons le Christ en croix et croyons en lui afin qu'il nous sauve de nos péchés, qui expie nos péchés. » Il a été exposé sur la croix aux yeux de tous, aux yeux des juifs qui se moquaient de lui et aux yeux des gentils qui ne comprenaient pas ce qui se passait, encore que la première confession de la divinité de notre Seigneur a été faite par ce centurion qui a dit « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu » lorsque notre Seigneur fut mort. Donc voyez-vous, mes très chers frères, « Élevé sur la croix, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tout homme à moi. » Élevé sur la croix, dit notre Seigneur, eh bien, il attire toutes sortes d'hommes à lui, juifs et gentils, païens, grecs et scythes, etc. Il a été élevé en haut. Malheur à ceux, mes très chers frères, qui sont attirés vers lui pour de mauvaises raisons. Que chacun s'examine soi-même et discerne pour quelles raisons il s'est converti, et quand bien même ce serait une mauvaise raison, que maintenant il se convertisse à nouveau pour les bonnes raisons. Mes très chers frères, je ne viens pas vers le Christ pour qu'il fasse de moi un champion, quelqu'un de plus fort, le restaurateur du Saint-Empire romain germanique, etc. Non, je viens au Christ comme ayant consenti à me faire mortellement piquer, mordre par le serpent que j'ai écouté dans mes premiers parents. Je viens vers lui, antidote divin, pour voir mes péchés expiés, et me voir transformé en lui, guéri par lui. Il est le signe d'espérance exposé sur la croix, il nous attire, mes très chers frères, il est l'espérance et le salut pour tous les rachetés. Il attire à lui tous ceux qui doivent être attirés, qui salvando salvas gratis, vous qui sauvez gratuitement ceux qui doivent être sauvés. Et c'est devant lui que se taisent les rois. Les commentateurs, ici, ne disent pas qu'il s'agit d'une moquerie ou d'une insulte envers les rois. Au contraire, les rois, après avoir persécuté, surtout dans la personne des empereurs romains, païens, après avoir persécuté l'Église, eh bien, ils ont fait de la croix, après s'être convertis, ils ont fait de la croix le plus bel ornement de leur diadème. Effectivement, alors que, quelques années plus tôt, on persécutait les chrétiens qui adorait celui qui avait été crucifié, eh bien, Constantin a été le premier à placer la croix sur son diadème. Et depuis, tous les rois, tous les empereurs ont toujours porté la croix au-dessus de leur tête, sur leur tête. Les rois ont fait silence devant le roi des rois, et ils ont su qu'il régnait, que c'était par lui qu'il régnait, par le Verbe éternel qu'il régnait. Et les peuples, deprecabuntur, c'est encore un passage d'Isaïe, Les peuples de la terre, convertis au vrai Dieu, au Dieu d'Israël, au Dieu de leur salut, c'est à lui qu'ils présentent leur prière, ce qui nous montre, soit dit en passant, que le Messie n'est pas simplement un homme envoyé par Dieu, il est Dieu lui-même présent parmi nous, que nous devons prier, que nous pouvons prier. Nous y reviendrons. Noli tardare, nous lui disons à la fin, yam noli tardare, désormais ne tardez plus. Pourquoi ? Parce que nous faisons preuve ici d'une sainte impatience, et le troisième jour, nous faisons preuve d'une sainte impatience pour notre salut, qui doit se traduire non pas par une impatience vicieuse, mais par des efforts contre la concupiscence, contre la désobéissance et contre l'amour désordonné de nous-mêmes. Nous désirons être sauvés, nous sommes sauvés en espérance, nous désirons être sauvés, alors faisons les efforts pour que nous puissions être sauvés. Le 20 décembre, nous dirons « O clavis David ». Et sceptrum domus Israël, ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, qui ouvrait sans qu'on puisse fermer, qui fermait sans qu'on puisse ouvrir, venez et tirez de sa prison le captif prisonnier des ténèbres et des ombres de la mort. Voilà une combinaison d'Isaïe, de l'Apocalypse et de Saint-Luc. Effectivement, et d'autres passages encore. Voyez-vous, ô clavis David, il est la clé de David. Il y a une progression, je ne sais pas si vous voyez très bien, mes très chers frères, mais c'est une progression dans la doctrine du Messie et de ses attributions. Au clavis David, il est la clé de David. La clé de David, c'est saint Jean qui utilise cette expression dans l'Apocalypse. En effet, il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Cette clé, pourquoi est-il la clé? Parce qu'il n'a aucun péché. Qui de vous me convaincra de péché? Disait-il aux Juifs. Il n'a aucun péché, et c'est pour cela qu'il est digne d'ouvrir le livre de vie. Je regardais, il n'y avait personne digne d'ouvrir. Je pleurais beaucoup, dit l'apôtre saint Jean. Et on me dit, ne pleure pas, regarde, l'agneau de Dieu, lui est digne d'ouvrir, de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Il a dans sa main l'autorité suprême. Et c'est pour cela, disent les commentateurs, qu'il est appelé clé de David. Il a une autorité suprême tout d'abord dans l'Église, puisqu'il règne spirituellement sur elle, et c'est par son autorité, et c'est par son autorité que les apôtres régissent l'Église. Il a dit à tous les apôtres dans la personne de Saint-Pierre, « Je vous donne les clés du royaume des cieux. » Voyez-vous, tout ce que vous fermerez sera fermé, ici-bas sera fermé au ciel, tout ce que vous ouvrirez sera ouvert. Il a donné aussi à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés en son nom. Le pardon des péchés, il a donné le fameux pouvoir des clés, qui est le pouvoir de remettre les péchés. C'est une notion très importante, mes très chers frères, beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Elle est très importante pour le sacrement de confession, bien entendu, et les sacrements, elle est importante pour comprendre le rôle du pape, le rôle des évêques, etc., le rôle des prêtres, bien sûr, mais aussi, elle est très importante, je le mentionne en passant, elle est très importante pour comprendre, pour ce qui constitue le verrou, puisqu'il est une clé, il y a donc un verrou quelque part, il est comprendre le verrou des destinées de la création. En réalité, tout péché est un obstacle qui aliène le pécheur de Dieu. C'est un obstacle qui qui expose le pécheur à la colère de Dieu. Le pécheur, ce n'est pas simplement celui qui a fait un péché et qui, moralement, a une dette. C'est celui qui s'est détourné de la fin, à la fois naturelle et surnaturelle, de la création. C'est-à-dire, nous l'avons dit dans le premier antienne, le Verbe divin, pour qui et par qui tout a été fait et en qui tout subsiste. Il y a là un mystère d'ordre cosmologique, si l'on peut dire, de telle sorte que seule l'Église qui possède le pouvoir des clés est capable de délier les liens de la corruption, les liens du péché. Et si les pécheurs pouvaient se voir tels qu'ils sont, ils se rendraient compte qu'ils sont comme des prisonniers perpétuels, ligotés de plus en plus par des chaînes qui les aliènent de Dieu, qui les immobilise, c'est pour cela qu'il est dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures, celui qui n'a pas le vêtement nuptial, et qui les immobilise et qui les rend totalement vulnérables à la colère de Dieu et aussi à la cruauté des démons. Si nous pouvions voir dans quel état est l'homme déchu, si nous pouvions le voir avec les yeux de chair, si nous pouvions voir dans quel état est le pécheur, dans quel état est celui qui est ingrat, mes très chers frères, nous serions pris d'une telle frayeur, d'une telle horreur, que nous ne pécherions plus, nous demanderions à Dieu de ne plus nous laisser tomber, de ne plus permettre que nous tombions aussi facilement par notre propre méchanceté et malice, mes très chers frères. Il y a quelque chose de presque incommunicable, et les visions de l'enfer que divers saints nous ont laissées finissent toujours par nous tomber des mains, parce que c'est inimaginable, je ne dis pas que ça doit, mais je dis ça arrive, mais parce qu'il y a quelque chose cela n'est compréhensible que quand on en fait l'expérience, jusqu'à un certain point. Et la doctrine du Christ comme clé de David nous fait comprendre à quel degré d'asservissement à celui auquel il s'est soumis se trouve le pécheur. Notre Seigneur est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est par lui que le pécheur sort de sa prison le monde des ténèbres et le royaume de Satan pour devenir participant de la lumière divine du royaume de Dieu. Il a une autorité spirituelle sur l'Église, bien entendu, il en est le chef invisible et le chef réel, le chef radical. Ensuite, toujours en tant que clé de David, les commentateurs nous disent que on ne peut entrer dans l'Église, son royaume, le royaume du Christ, que par lui. C'est pour ça que le baptême, ce n'est pas un ticket d'entrée, c'est une incorporation au Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est valide, mais qu'il n'est pas catholique, eh bien il y a quelque chose d'empêché, voyez-vous, et il ne faut pas trop présupposer de l'efficacité d'un baptême valide, mais qui ne serait pas un baptême qui fait entrer dans l'Église. C'est un baptême qui fait passer potentiellement de la mort à la vie, mais il se trouve qu'il y a quelque chose d'absurde dans un baptême valide mais non catholique. Voyez-vous, l'effet est empêché. Craignons, mes très chers frères, craignons de nous croire dans l'Église et d'être de l'autre côté d'une porte verrouillée dont le Christ n'a pas été pour nous la clé de David qui nous a ouvert, qui nous l'a ouverte, cette porte d'entrée. Quiconque essaye d'entrer dans l'Église autrement que par la porte est un brigand, dit notre Seigneur. Une autre application, une autre réalité relative à cette clé de David, le Christ comme clé de David, c'est que les commentateurs nous disent que lui seul dispose de tout ce qui se fait dans ce royaume. Il s'agit ici moins de l'Église régie par le droit canonique, l'Église militante où il y a plein, où l'ivraie et le bon grain sont mélangés. Parlons de l'Église en tant que, du point de vue de Dieu, si nous osons. Si le Seigneur ne bâtit la cité, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain, dit le psaume 126. Si Dieu détruit, dit Job, nul ne peut bâtir. S'il ferme la porte, nul ne l'ouvrira. C'est Dieu qui ouvre les trésors de sa grâce, et lorsqu'il ouvre les trésors de sa grâce pour quelqu'un, nul ne peut refermer ses trésors. Nul, lorsque Dieu touche un cœur, ce cœur ne peut pas se refuser. Bien sûr, il peut prendre la tangente, il peut se refuser provisoirement, mais dans le fond, c'est la volonté salvifique de Dieu sur lui qui se réalisera. Voyez-vous, mes très chers frères, malheur à ceux qui entrent dans l'Église, même licitement, même réellement, pour de mauvaises raisons, qui s'entichent de la doctrine catholique, on ne sait trop pourquoi, ou maintenant, malheureusement, on ne sait que trop pourquoi, et qui n'ont pas été appelés par la main puissante, le Verbe puissant de Dieu, le Recréateur, et qui n'ont pas, pour lesquels ce n'est pas les trésors de la grâce de Dieu qui se sont ouverts, mais la porte de leur imagination. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors je dis ça, non pas pour nous terroriser, mais pour nous faire considérer avec respect celui qui est notre chef, notre Dieu, le chef du corps auquel nous appartenons, en tant que chrétien, en tant que baptisé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la clé de David. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvre. Ô Dieu, ne fermez pas la porte de votre salut pour vos pauvres créatures. Nous devons, voyez-vous, mes très chers frères, nous devons le prier qu'il nous délivre de la mauvaise volonté, qu'il nous délivre de ce carcan dans lequel nous serions retenus captifs, prisonniers des ténèbres et des ombres de la mort, et ce carcan dans lequel passe toute l'humanité, toute sa vie, pendant toute son existence, depuis la chute. L'humanité est assise dans les ténèbres de l'ombre de la mort, elle ne voit que des illusions, elle ne connaît pas le monde de Dieu, parce qu'elle ne connaît pas le Christ. C'est pour cela que, sans le Christ, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être un chrétien inconscient, un chrétien inconnu, un chrétien... Il faut connaître le Christ pour pouvoir être sauvé. Mais quand on le connaît, encore faut-il lui obéir, nous y reviendrons. Le 21, nous dirons « Ô Oriens, splendor lucis eternae et sol justitiae. Ô Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice. Venez et donnez la lumière à ceux qui gisent dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. » Encore une fois, les ténèbres, l'ombre de la mort, Malheur à ceux qui minimisent les effets du péché originel, malheur à ceux qui minimisent les effets de la chute, malheur à ceux qui pensent que les effets de la chute ne sont jamais que la perte de quelques dons surajoutés qui étaient très, très, très agréables, très bien, mais enfin qui n'ont laissé la nature humaine que dans son état naturel. L'état de la nature humaine après la chute est dans un état infranaturel. Et c'est pour cela que notre Seigneur est appelé l'Orient, c'est-à-dire le soleil levant, et nous lui demandons de venir illuminer ceux qui, sans lui, ne peuvent être qu'assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Il est le soleil levant, et cela vient du prophète Zacharie, a distingué de Saint Zacharie le père de Saint Jean-Baptiste, les deux portent le même prénom, et ils parlent de la même chose. Le prophète Zacharie dit « Voilà l'homme qui a pour nom Orient, il parle du Messie. Ce sera un germe qui poussera de lui-même et il bâtira un temple au Seigneur. » Voilà toute la doctrine du Messie. Et Zacharie, Saint Zacharie, donc le père de notre Seigneur, de Saint Jean-Baptiste, l'ami de notre Seigneur, il est le soleil levant par lequel Dieu nous a visités, dit-il dans le cantique de Zacharie Benedictus. Le soleil de justice qu'est le Christ, n'est pas celle de la loi, mais celle de la satisfaction réalisée au calvaire pour nos péchés, accomplissement des ombres de la loi. La justice de Dieu nous est connue par la loi de Moïse. Nous comprenons combien Dieu est saint et combien Dieu veut que nous soyons saints nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas l'atteindre par la loi de Moïse. Nous ne pouvons l'atteindre que par l'imputation des mérites du Christ acquis par lui au calvaire pour notre compte. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a accompli les ombres de la loi, toute la loi de Moïse tend vers le Christ. Il éclaire nos âmes en tant que soleil levant, il pardonne nos péchés, il dissipe les ténèbres dans lesquelles nous sommes, mais aussi il révèle les effets de la chute. Les commentateurs nous disent, lorsque la lumière apparaît pleinement, on voit jusqu'au moindre grain de poussière. Et effectivement, lorsque la lumière du soleil de justice s'est levée dans nos cœurs, comme dit Saint-Pierre dans son épître, eh bien, alors nous voyons tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de sale, tout ce qu'il y a de déviant, tout ce qu'il y a à réformer, tout ce qu'il y a à transformer, tout ce qu'il y a à sanctifier. Il révèle la difformité de notre être et par l'application de sa grâce à notre être, eh bien, il nous transforme, il nous donne la justification et la sanctification. Nous qui étions impies, nous devenons réellement justes, justes de sa justice. Il échauffe notre cœur encore en tant que soleil levant, il échauffe notre cœur par la charité, et ce n'est pas simplement un sentiment général envers le Créateur, mais envers le Rédempteur. La charité, l'amour du Rédempteur, nous ne pouvons l'avoir que par la gratitude, nous ne pouvons l'entretenir que par la gratitude. Nous en parlons souvent, donc nous passons rapidement. C'est par la gratitude que nous entretenons la chaleur de la charité que produit en nous le lever du soleil de justice. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. « Je suis la lumière du monde », dit-il. Les ténèbres ne la reçoivent pas. Malheur à ceux qui entendent la voix de la lumière du monde et qui se refusent à l'illumination. Un jour, elle les éblouira, mais pour la damnation éternelle. Quant aux autres, elle les illumine parce qu'elle veut les illuminer. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est par sa lumière que nous voyons sa lumière, ce qui dit le psaume, c'est-à-dire que sans lui, nous sommes aveugles. Le prophète Malachie nous dit que le soleil de justice se lèvera pour vous, dit-il, c'est Dieu qui parle, il se lèvera pour vous qui avez une crainte respectueuse de mon nom et vous trouverez votre salut sous ses rayons. Malheur à ceux qui disent que l'on peut être sauvé autrement que par le Christ. Que Dieu agréera ceux qui, dans l'ignorance du Christ, auront accompli avec la charité, une charité parfaite, les œuvres de la loi naturelle. Mais comment cela serait-il possible sans le Christ ? Et si cela est possible, nonobstant le Christ et sans le Christ, dans l'absence du Christ, et a fortiori dans l'ignorance du Christ, alors mon Dieu, pourquoi le Christ est-il venu ? Voyez-vous, mes très chers frères, le Christ a été envoyé par notre Dieu son Père afin d'être le Rédempteur, Hors de lui, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église, donc, il n'y a pas de salut. Sans la connaissance explicite du Christ, sans la foi explicite au sacrifice du Fils éternel de Dieu, l'agneau de Dieu, il ne peut pas y avoir de salut. C'est pour cela qu'on a toujours envoyé des missionnaires jusqu'aux confins du monde, afin de prêcher la parole de Dieu. Si on pouvait être sauvé autrement, l'Église n'aurait jamais envoyé de missionnaires ou ils se seraient affichés comme des gens venant produire une doctrine luxueuse et redondante, en réalité. Malheur aux blasphémateurs. Le 22, avant-dernier jour, nous dirons « Ô Rex Gentium, ô roi des nations et objet de leurs désirs, pierre d'angle qui réunit les deux peuples en un, venez et sauvez l'homme que vous avez formé du limon de la terre. » Ô Rex Gentium, il a racheté les nations, c'est-à-dire la gentilité, qui ne le désiraient que d'hier. Les nations désirent, les païens, les gentils, ont désiré le Christ, mais depuis quand ? Depuis que les apôtres leur ont dit qu'ils devaient le désirer. Et lorsque les apôtres ont implanté dans le cœur des nations le désir d'un rédempteur, alors ce rédempteur leur a été donné. C'est une grâce purement gratuite. Ce sont les saints apôtres qui nous ont appris à désirer le rédempteur, qui est devenu par la même occasion le désiré des nations. Le plus grand crime de la gentilité, de l'Église de la gentilité, c'est-à-dire de l'Église telle qu'elle se compose aujourd'hui, c'est de gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas d'origine juive, ou il y a très peu de juifs, mais il y a énormément de gens d'origine non juive, eh bien, le plus grand crime de l'Église de la gentilité, c'est l'abandon de la gratitude pour ce salut obtenu sans promesse préalable. Dieu avait promis à Abraham que le Messie viendrait. Mais lorsqu'il a promis à Abraham que le Messie viendrait de sa descendance, et qu'il serait sa descendance en réalité, eh bien toutes les autres nations, nous disent les pères, ont été abandonnées. Elles ont été abandonnées à elles-mêmes. Et c'est parce que les descendants d'Abraham ont rejeté le Messie que le Messie a fait prêcher l'Évangile aux nations, qu'il avait promis aux Juifs, qu'il s'était promis à lui-même de sauver un jour, mais non pas en tant que nation, mais en tant que païenne, mais en tant qu'acte purement gratuit de la part de Dieu, qui était venu qui avait envoyé son fils pour les enfants égarés de la maison d'Israël, et non pas pour les chiens. Il y a là un grand mystère qui doit exciter notre reconnaissance. Rex Gentium, roi des nations. Il est, notre Seigneur, le roi de l'Église. Et je vous dirai ici quelque chose qui est une évidence, mais qui est très peu connue, ou très oublié en réalité, et ce sont nos pères qui nous l'enseignent. Et notre Seigneur est le roi de l'Église, il n'est pas le roi de l'humanité. Il ne règne pas sur les nations qui ne lui sont pas soumises. Alors vous allez dire, est-ce que ça signifie qu'elles ont un autre roi, etc. Il les possède en tant que créateur, mais il n'est roi que de ceux qui suivent sa loi. Nous y reviendrons dans un instant. Lorsque l'archange Saint Gabriel a dit à la très sainte Vierge Marie qu'il siégera sur le trône de David, son père, eh bien, il indiquait que son royaume, c'est l'Église, qui est dans le monde, mais non pas du monde. Et nous voyons que ce royaume est un royaume qui est distinct du monde qui se perd, il est distinct du monde, sinon il serait un mélange de ténèbres et de lumière. Or, il est écrit que cela est impossible, que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort doivent être délivrés. Mais tant qu'ils ne sont pas délivrés, ils sont dans un état qui est antithétique à celui du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que c'est un grand signe d'apostasie formelle que cette phrase que l'on trouve au début de Vatican II, des textes de Vatican II, quand il est dit que l'Église donne au monde et reçoit du monde. L'Église ne reçoit rien du monde. La seule chose qu'elle reçoit du monde, si on veut utiliser le mot, ce sont les esclaves du diable transformés en enfants de Dieu par le baptême. Voilà ce qu'elle reçoit. En réalité, elle ne reçoit rien du tout. Elle recrée par le baptême des créatures qui étaient déchues. Notre Seigneur est roi des Juifs, puisque c'est cela qui était écrit sur le sommet de sa croix, sur le titulum de la croix. Il est le roi des Juifs, c'est-à-dire il est le roi des nations converties, marquées par la dignité israélitique. Il n'y a qu'un seul royaume, et c'est pour cela qu'il est dit, dans un grand mystère qui vient de saint Paul, « Et des deux peuples, il n'en fait qu'un. » L'apisque angularis qui fascis utraque unum. Pierre angulaire qui fait des deux un seul. Les Juifs et les Gentils ont été réconciliés dans le Christ, pierre angulaire de son propre royaume, de son Église. Il n'y a qu'un seul royaume, et dont le Christ est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs, et qui est un objet de scandale pour ceux qui la rejettent. Quel est le devoir, mes très chers frères, les devoirs des sujets de ce royaume? Il y en a 8, je vous les cite simplement en passant. Le premier, toujours en empruntant à nos pères, le premier, c'est d'être fidèle à notre roi. Le deuxième, c'est de lui rendre le tribut, c'est-à-dire nos prières et nos adorations. Le troisième devoir des sujets du royaume de Dieu, c'est d'obéir aux lois du royaume de Dieu, et donc de les connaître, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Le quatrième devoir des enfants du royaume, des sujets du royaume, c'est de s'intéresser à la gloire de Dieu, et non pas à la leur propre évidemment, c'est-à-dire que ne pas céder au respect humain, et toujours porter témoignage à la vérité, lorsque cela se doit, lorsque cela se peut, lorsque c'est opportun, mais c'est une loi générale. Vous voyez ? Et évidemment, les abus sont interdits. Le cinquième devoir des citoyens de ce royaume, c'est de n'avoir aucune liaison avec les ennemis de leur roi. Le sixième devoir, c'est de recourir à sa bonté, et si j'ose dire, à la bonté d'aucun autre. Lorsqu'on a un roi tout-puissant et généreux, c'est une insulte que d'aller demander à un autre roi, un roitelet quelconque, voire à ses ennemis, de nous aider. Recourir à sa bonté, ne pas désespérer du salut. Dans la mesure où on est baptisé, dans la mesure où on peut être baptisé, il faut, où on veut être baptisé, il ne faut pas désespérer de son salut, il ne faut pas dire « Dieu me rejette ». Bien sûr, nul ne doit le dire, nul ne peut le dire. Mais maintenant, il faut aussi recourir à sa bonté. Sinon, c'est de la témérité ou bien du désespoir. Septième devoir, s'attacher de plus en plus à son service. Nous sommes faits enfants de Dieu, serviteurs de Dieu par le baptême. Nous sommes confirmés dans cet état par la confirmation, mais il faut grandir, il faut continuer, il faut être de plus en plus serviteur de Dieu et de moins en moins serviteur de la nature ou voire du diable que Dieu nous garde. Et le huitième devoir, on l'oublie souvent, il faut redouter sa justice. Et enfin le 23, avant-veille de Noël, nous dirons « Ô Emmanuel ». Rex et legifer noster, expectatio gentium et salvator earum, veni ad salvandum nos, domine Deus noster. Ô Emmanuel, roi et notre législateur, attente et sauveur des nations, venez nous sauver, Seigneur notre Dieu. Ô Emmanuel, c'est le nom mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, annoncé par Isaïe et porté, à strictement parler, par personne, sinon d'une façon mystérieuse par le Dieu fait homme. Lorsque les Juifs disent que la prophétie d'Isaïe concernait un obscur enfant qui devait naître à la cour du roi auquel il s'adressait, mais qui dans l'Écriture s'est jamais appelé Emmanuel? Je ne pense même pas que les Juifs s'appellent, que ce soit un prénom usité parmi les Juifs. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est le nom caché, le nom intime, le nom secret, le nom divin en quelque sorte, de notre Seigneur. Notre Seigneur s'appelle Salut de Dieu parce que Emmanuel. Ayons un très grand respect pour lui, et quand le président de la République qui s'appelle, qui porte aussi ce prénom, j'ai entendu des mauvais jeux de mots parce que, bon, je ne sais pas, on dit qu'il est un peu orgueilleux, etc. Bon, libre à lui, après tout, que les morts enterrent les morts. Mais il se trouve que on a ironisé sur son prénom, c'est un prénom qui n'est pas très courant, c'est vrai, on a ironisé son prénom, et donc on a blasphémé le nom du Christ. Laissez les hommes faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient bons ou mauvais, laissez-les faire, ce n'est pas notre problème, ne blasphémez pas. S'ils portent comme lui un des noms de Dieu, honorons son nom, et si on doit le critiquer, si c'est absolument nécessaire, faisons-le autrement qu'en attaquant le prénom qu'il porte, qui est le nom de notre Sauveur. C'est insupportable, insupportable quand, sous prétexte de résistance, de critique, je ne sais pas trop quoi, on érafle le vrai Dieu, accidentellement, mais très réellement. Que signifie Emmanuel, Dieu avec nous ? Il était certes présent avec le peuple d'Israël, sous Moïse, par la nuée de feu et de ténèbres. Il était présent avec Salomon lors de la dédicace du premier temple, lorsque la nuée a rempli le temple et que les prêtres ont dû sortir. Mais il était présent d'une façon séparée, d'une façon même transitoire et d'une façon terrifiante. Avec nous, depuis la nativité, notre Seigneur, le Fils éternel de Dieu, vrai Dieu, c'est Dieu incarné. Il a en lui la douceur, mais attention, la douceur d'un médecin, non pas la douceur d'un faible, la douceur d'un lâche, etc. Bien sûr que non, mais ça serait très mal le connaître, même ça serait ne pas le connaître du tout. Il a la douceur d'un médecin. Le médecin qui nous voit malade ne vient pas avec des grands airs pour nous effrayer. Il vient et il nous donne une médecine effrayante. Il y a un aspect terrible dans le Dieu incarné, aspect terrible, bien plus terrible que les apparitions transitoires de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a un aspect terrible, pourquoi ? Parce qu'il vient détruire la nature déchue, et même la nature tout court, en lui faisant atteindre sa fin, puisqu'il est appelé par saint Paul le consommateur de notre foi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le nom du Verbe incarné est Jésus, et sa réalité est Emmanuel, Dieu avec nous, non pas comme moyen pour je ne sais pas trop quoi, mais comme fin. Il est la propre fin qu'il nous propose à nous en se prêchant, en faisant prêcher sa personne par l'Église à nos oreilles. Voyez-vous, mes très chers frères, Dieu avec nous, non pas pour nous servir à avoir une vie meilleure, mais pour nous consommer en lui, pour nous consumer en lui, non pas feu dévorant, mais feu de l'Holocauste qui nous rend agréable à Dieu en lui, en union avec son propre Holocauste qu'il a offert sur la croix à son Père. Il se donne à nous, mais c'est pour nous assimiler en lui. C'est le grand mystère de la communion, selon saint Augustin, notre Saint-Père. Saint Jean nous dit que le but et la fin de l'incarnation, c'est notre société, c'est que notre société soit avec le Père et avec son Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Voilà comment il est notre roi. Et il est dit, roi, ô notre roi, Emmanuel notre roi et notre législateur. Pourquoi notre législateur ? Parce que en lui, le Père éternel, le Père éternel a mis toute son affection et il dit, écoutez-le. Et si nous nous tournons vers la Sainte Vierge pour avoir son opinion à elle, elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. La loi du Christ, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui perfectionne la loi de Moïse. La loi de Moïse n'est pas abolie, en tout cas dans ses dispositions morales, elle n'est pas abolie par le Christ, elle est accomplie par lui dans ses dispositions liturgiques et cérémonielles. Vous le savez, mes très chers frères, mais le Christ est le législateur d'un Évangile éternel, dit saint Jean, dans l'Apocalypse toujours, et qui ne change pas et dont on ne peut être dispensé. Nul ne peut être dispensé des préceptes de l'Évangile, des commandements de l'Évangile. Veni, veni a salvandum nos, domine Deus noster. Venez, venez nous sauver, Seigneur notre Dieu. Oui, mes très chers frères, prions-le, craignons-le, aimons-le, soyons-lui reconnaissants d'avoir tout accompli pour nous, obéissons-lui avec l'aide de sa grâce, et c'est alors, mes très chers frères, que nous nous réjouirons d'une joie véritable, jetant tous nos soucis sur lui, sachant que lui-même prend soin de nous. Quel sauveur que le nôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.